With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. La NBA arrive doucement mais sûrement à sa mi-saison. L'heure pour nous de décerner des trophées, mais des trophées un peu spéciaux. C'est des trophées à la sauce Dunk Hebdo après une quarantaine de matchs. Ils sont au nombre de 6, on va vous les présenter. Mais avant ça, je vais présenter mes acolytes pour aujourd'hui. Avec nous d'abord, celui qui a envoyé un message à 11h08 sur WhatsApp. On va trop rigoler. Je présente Madiane. Comment ça va, Madiane? Est-ce que tu le sens bien, cet épisode-là?
Eh ben oui, je le sens très bien. Je pense qu'en fait, il est presque trop simple pour envoyer des tacles gratuits. Donc, je vais tâcher d'être modéré, d'argumenter en faveur de mes cas.
Oui, parce qu'on va être sur des trophées full toxicité. Hein, clairement, on est vraiment sur la négativité.
Il y en a des sympas.
Il y en a des sympas après. Et puis, après une critique un peu féroce des jeunes joueurs la semaine dernière, il est là pour équilibrer la force. C'est Alan. Comment ça va, Alan?
Salut Ben, salut tout le monde. Oui, d'ailleurs, Cam Reddish s'est fait trader cette semaine. C'était quand même très très drôle.
Contre 2 mars. Ouais.
Contre, on ne veut plus dans les équipes.
Ouais, donc...
Et ils sont allés le voir après avoir battu Atlanta. C'est belle solidarité après le trade.
Pour un joueur qui avait, là, ça va être ma petite pique, mais pour un joueur, souvenez-vous de notre présentation, il a réclamé son trade d'après le GM Travis Schlenk avant le début de la saison. Ouais. À croire que le mec avait assez fait pour exiger un transfert. Ça, c'est quand même absolument incroyable. Bref, on est parti sur des grosses bases, là. Donc, ensemble, on va vous présenter 6 trophées qu'on va décerner pour cette première partie de saison. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter. On a un concours en ce moment sur Twitter jusqu'au 25 janvier pour vous faire gagner un League Pass jusqu'à la fin de la saison. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à retweeter le tweet. Je préfère toujours personnellement et même toute l'équipe que ça soit un fidèle du podcast qui le gagne que ces comptes absolument affreux qui ne font que retweeter les concours. Et puis, on vous invite aussi à nous suivre sur Apple Podcasts pour écouter l'émission 5 étoiles comme sur Spotify. Et puis, il va falloir qu'on crée aussi un mouvement, les gars. On s'approche petit à petit des 1000 abonnés sur YouTube, mais ça prend du temps. Donc, il faut vraiment inciter les gens à ce qu'ils s'abonnent sur YouTube pour qu'on arrive à cette barre des 1000 abonnés. Nous, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler d'un trophée inspiré d'un ancien lutin des Celtics. Le trophée Isaiah Thomas, pour les habitués du podcast, c'est un trophée déjà bien connu. Pour ceux qui sont un petit peu plus nouveaux, petite explication, le trophée Isaiah Thomas, c'est donc fait référence à la période pendant laquelle l'ancien meneur des Celtics est passé de 5e au classement du MVP en 2017 à une signature d'un contrat de un an plus tard, en 2018, avec une équipe des Nuggets pour laquelle il a joué que 12 matchs et dans laquelle son rôle était vraiment secondaire, hein. Tout ça après une saison 2017-2018 extrêmement difficile, ballottée entre les Cavs et les Lakers. Donc le trophée Isaiah Thomas, c'est celui de la descente aux enfers. Et je précise quelque chose avant, les gars, peut-être qu'on donne nos... Pour voir si on est sur la même longueur d'onde, hein, avant qu'on donne nos candidats. Moi, je trouve ça plus marquant, un joueur qui passe de option 1 ou 2 ou joueur majeur d'une équipe solide à remplaçant, comme c'est le cas d'Isaiah Thomas, qu'un joueur qui passe de titulaire, disons, sixième homme à hors de la Ligue. Quel est votre avis là-dessus? Comment vous jugez la descente aux enfers? Je vais commencer avec toi, Madiane.
En fait, je pense qu'il va être très difficile de battre Isaiah Thomas sur ce trophée parce que, non, mais honnêtement, j'ai pas trouvé de descente aux enfers aussi forte, même de trucs qui ressembleraient un peu à ça. On en a, il y a des joueurs, etc., mais en fait, on n'y est pas encore dans ce stade-là, donc c'est difficile de directement décerner le trophée. Et effectivement, un truc spectaculaire comme très fort ou même un All-NBA third team qui derrière passe remplaçant, bah, ça marque mine de rien et c'est, je trouve, un coup d'arrêt beaucoup plus fort qu'effectivement bon, un joueur qui était titulaire vraiment, mais bout de titulaire et qui finit hors de la ligue.
Est-ce que tu es d'accord là-dessus, Alain ? Donc la chute est d'autant plus forte que l'on passe d'un statut de star à celui d'un joueur secondaire plutôt que joueur secondaire à hors de la ligue.
Ouais, complètement. Ça va être super dur de battre Isaiah Thomas. Bon, il n'y a que Boogie Cousins qui est dans les 5 dernières années le challenge. L'année dernière, on avait dit des Paul Millsap, des trucs comme ça. C'est des joueurs qui étaient titulaires solides et qui se retrouvent à limite jouer 15 minutes en playoff. Et quand ils se voient le terrain trop en playoff, tu grinces des dents. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, tu nous le disais avant l'émission, un joueur qui était peut-être un sixième homme de luxe ou un joueur qui un starter de troisième zone qui passe à un joueur bah, qui joue plus, c'est moins marquant, c'est moins comme Isaiah Thomas, DeMarcus Cousins et compagnie.
Eh bien messieurs, on a un peu classé, on a un peu expliqué en quoi qu'est-ce qu'était ce fameux trophée Isaiah Thomas. Donc on va commencer avec les prétendants. Je vais rester avec toi, tiens Alan, tu mets qui comme prétendant pour ton trophée Isaiah Thomas du début de saison 2021-2022?
Russell Westbrook et Blake Griffin. Russell Westbrook et Blake Griffin pour des raisons différentes. Comme tu l'as dit, c'est encore une fois des différences d'étage. Russell Westbrook, moi j'avais du mal déjà avec le discours des deux dernières années qui consistait à dire non mais regarde, il commence mal les saisons et en fait sur les deuxièmes parties de saison il est super bon. C'était vrai, mais en fait c'est les deux fois, donc à Houston et à Washington, on avait dû tellement s'adapter à lui pour que ça fonctionne, notamment à Houston avec le trade de Capella et jouer vraiment sans intérieur pour qu'il puisse en gros être le seul joueur qui finit proche du panier et donc lui donner l'accès au cercle et ensuite le faire jouer énormément balle en main et beaucoup en contre-attaque avec les Wizards. En fait, ça a mené nulle part sur les deux fins de saison. Donc j'attends pas à ce que Westbrook change réellement de niveau sur la fin d'année et je trouve qu'il est négatif sur demi-terrain aujourd'hui en NBA. Il est pas positif. Et Blake Griffin, parce que c'est un joueur qui était titulaire dans une équipe qui était favorite au titre l'année dernière. Qui a des minutes intéressantes en playoff et qui cette année s'est fait bench parce que des fois il est pas jouable dans certaines confrontations et je suis pas sûr qu'il jouera plus de 10 minutes en playoff avec Brooklyn.
Russell Westbrook, je pense, vu ton rire Madiane, je pense qu'on l'a tous plus ou moins, hein, l'ami Russell Westbrook, donc je vais te laisser enchaîner avec tes candidats à toi.
Et en fait, j'avais ce top 2 et finalement, j'ai retenu Blake Griffin. Alors, Russell Westbrook, je partage, mais je trouve que le joueur est négatif, mais je laisse encore un peu de temps avant de faire tomber le couperet. Je pense que notamment, il sera un très fort candidat l'an prochain quand, à mon avis, il ne trouvera pas de poste nulle part quasiment. Enfin, ce sera difficile pour lui de trouver un endroit, un point de chute pour jouer. Parce que ce qui monte cette année est quand même très inquiétant. Moi, Blake Griffin, je l'ai mis parce que devant Russell Westbrook, parce que Blake Griffin, il fait une année super à Détroit. Il les emmène, il les porte vraiment. Il se blesse, il fait une saison un peu blanche. Il commence la saison suivante. Vraiment à Détroit tu le vois pas ouf et moi il y a une alerte et quand il se fait trader à Brooklyn j'ai trouvé très affûté dans l'énergie, il a vraiment su s'adapter et changer son rôle pour s'adapter à Brooklyn et j'ai trouvé son apport très intéressant et il est passé de ah oui quand même en fait il peut jouer titulaire, ok il est dans l'énergie, il apporte énormément de choses, franchement c'est propre, c'est très bien, à cette année où je pense que ne verra pas le terrain en play-off. Je pense qu'il sera exploité trop fort et pour moi, il ne jouera pas. Je pense qu'il ne pourra pas avoir le terrain. Ça, c'est trop dur, en fait. Je pense qu'il est dépassé. Il est dépassé actuellement et ça se voit. Quand tu le vois jouer, tu le sens dépassé. Et on est quand même passé d'un statut où, bon, il jouait titulaire, j'avais des doutes, mais eh ben, non, clairement, il avait un vrai apport dans l'équipe et je le voyais avoir sa place. Et d'un seul coup, là, je le sens dépassé pour le basket. Et j'ai pas compris. Je pensais pas qu'il pourrait autant dégrader en un an.
Je suis d'accord avec vous pour Russell Westbrook. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je suis vraiment d'accord avec le point que tu as avancé, Madiane. À la fin de son contrat l'année prochaine, je pense que là, ça pourrait être vraiment difficile. Parce qu'en soi, bon, le trophée Isaiah Thomas, on essaie de le décerner de manière annuelle, mais en réalité, c'est plutôt un processus de 2 ans. Quand on regarde l'exemple ultime, donc Isaiah Thomas, c'est un processus sur 1 an et demi, en fait, où il passe d'un mec qui se mêle à la course au MVP à une free agency où c'est vraiment un joueur qui galère à avoir un contrat. J'avais mis Westbrook aussi parce que c'est un joueur qui, pas dans les nôtres, mais dans le DH20 global, était cité plus d'une fois. Quand même, c'est un joueur qui, pour, je pense, beaucoup de gens, peut-être pas pour nous, mais pour beaucoup de gens, il avait de l'importance. C'est un joueur qui finit 11e. Alors, vous allez me dire 11e, oui, mais il a des votes au MVP la saison dernière. Et on en a parlé entre nous. On est au point où on commence à avoir de l'empathie. Je sais que c'est Elias qui l'avait mis en avant. Et quand tu commences à avoir de l'empathie pour un joueur qui... Enfin, moi, j'ai toujours considéré que je me situe dans le centre de l'espèce de folie qui règne autour de Russell Westbrook, ni trop à fond, ni trop dans la détestation. Ben, ça fait très mal. Par contre, moi, dans mes 3 candidats, enfin, dans mes 2 et demi, j'ai pas Blake Griffin, j'ai John Wall. Mon seul problème avec John Wall, c'est je date ça quand. C'est-à-dire que John Wall, il a joué 40 matchs depuis le 26 décembre 2018. On est en 2022. Mais je pense pas que la descente aux enfers, elle soit maintenant. Elle est à quel moment? Quand il se blesse? Quand il revient à Houston? Quand il est transféré en échange de Russell Westbrook? J'ai un peu du mal à la dater. Et puis, on salue Antoine, notre CM, qui parlait de Ben Simmons. Alors, pour moi, je vais pas inclure Ben Simmons parce que je pense que c'est un contentieux et que niveau basket, il sera toujours respecté. Là où les autres, niveau basket, le sont moins. Du coup, messieurs, ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, ça serait bien, je vous avais pas prévenu, c'est peut-être se mettre d'accord sur un gagnant. Donc, vous partiriez sur quoi? Westbrook, ça semble se décider entre Westbrook et Griffin.
Moi, Griffin, j'ai l'impression qu'il va peut-être pas. Enfin, moi, je trouve que c'est fort le fait qu'il ne jouera peut-être pas passé un certain moment. En tout cas, moi, le post-saison, je le vois pas sur le terrain. J'ai vraiment du mal à l'imaginer. C'est plus fort, alors que Westbrook, je le vois bien juste plomber son équipe, mais jouer.
Donc,
du coup, j'ai plutôt tendance à dire Griffin.
Un vote pour Griffin. Alan ?
Si on part du principe que, oui, le statut de Blake Griffin est diminue plus que celui de Russell Westbrook, c'est-à-dire qu'en fait, Russell Westbrook, on savait peut-être qu'en fait, ça serait la troisième option des Lakers, et même s'il n'est pas bon ou très productif, il sera quand même la troisième option des Lakers, en réalité, par rapport à Blake Griffin, qui devait être peut-être le 5e meilleur joueur des Nets, peut-être, et qui va se retrouver peut-être à ne plus être dans leur rotation à 8 ou 9. On peut accorder le point à Blake Griffin. Mais en même temps, peut-être que Nash le repose, parce qu'on sait que c'est peut-être délicat en termes de problèmes de santé, de pépins physiques pour lui, et que ça serait peut-être un joueur qui, sur une campagne de 16 matchs de playoff, pourrait peut-être se montrer un petit peu plus à son avantage, je sais pas. Mais ouais, on peut donner le point à Griffin. Je peux accepter de donner le point à Griffin.
Bon, bah, c'est l'avantage d'être un nombre impair. Quel que soit mon vote, ça sera Blake Griffin. Je vais le donner peut-être un... Je partage le point entre Westbrook et John Wall, parce que je trouve que quand même John Wall, j'ai l'impression qu'il a disparu de la carte, en fait. C'est-à-dire que dans les débats, le nom de John Wall n'est plus du tout cité et Westbrook devrait s'en approcher. Le trophée, donc Isaiah Thomas, revient donc pour ce début de saison, ça pourrait changer, à Blake Griffin. On continue parce que là, ça va être l'avalanche des trophées aux noms bizarres et pour des joueurs sombres. Madiane, je te laisse expliquer le prochain, c'est le trophée Anthony Morrow. Explique-nous pourquoi.
Alors, c'était une époque où j'étais auditeur du podcast et il y avait un grand débat pour OKC de Anthony Morrow, il doit jouer. Anthony Morrow, il est bon. Anthony Morrow, il doit jouer. Anthony Morrow, il doit
non,
jouer.
Non, Anthony Morrow, il shoot, donc il doit jouer. On disait ça.
Oui, non, mais voilà. Et en fait, il voyait jamais le terrain. Mais en fait, et Ben, à un moment, arrive et dit, mais en fait, les gars, s'il voit pas le terrain, c'est qu'il est nul, point. Il y a pas de débat à avoir.
Ça me ressemble beaucoup, ça.
Et du coup, pour moi, c'est le joueur qui est poussé par la fanbase pour jouer plus, changer de poste, avoir plus de responsabilités. Mais en fait, c'est du théorique et si aucun coach ne le fait, c'est que c'est pas ce qu'on s'imagine, que ce joueur n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Mmh. Et donc, c'est pour ça que ce trophée existe.
Oh là, ce trophée a été promis à Cam Reddish il y a une semaine. Ça me tue.
Ah non, Kevin Knox aussi. En fait, ce trade nous a plombé.
Ouais, ce trade, moi, m'a tué parce que c'est de tous les trophées. Non, il y en a un autre après. C'est un de ceux avec lesquels j'ai le plus galéré. Alan, tu as choisi qui pour ce trophée? Anthony Morrow.
J'ai choisi Nickel Alexander Walker.
Ah, t'es allé du côté des Pélicans. C'est fort,
joué,
ça. C'est
bien joué, fort. Bien joué. Je n'avais pas vu.
Et j'ai hésité avec Thomas Toronski et Garrett Temple. Trois joueurs des Pélicans qui jouent moins de 26 minutes, je crois, les trois. Et j'ai toujours eu l'impression que Toronski, on le présentait comme un, oh, c'est un super meneur backup, il sait un peu tout faire. Cette année, il shoot à 31% au tir en 31 matchs. Garrett Temple, il est à moins de 40% au tir. Pour un CUND, c'est assez compliqué. Ça veut dire qu'en plus, il prend pas beaucoup de tirs. Mais mon choix, c'est Nickel Alexander Walker, qui est dans sa troisième année, qui joue quasiment 27 minutes. Il joue quasiment, mais c'est 27 minutes de trop. Ça prouve que, ça prouve que, voilà, les expériences des gardes, l'époque où ils avaient Jrue Holiday, Lonzo Ball et tout, est bien passé du côté des Pélicans, parce que Nickel Alexander Walker, c'est un joueur qui est sous les 40% au tir. C'est un joueur qui est quasi, à peine à 30% à 3 points, qui perd beaucoup de ballons, qui n'est pas un solide joueur de rotation NBA. J'ai l'impression que, il y a eu ces step back à la Summer League il y a un ou deux ans, il y a eu la Summer League NAW, je sais qu'on s'en rappelle tous. C'est un joueur qui est drafté dans le top 20, et pour moi, voilà, je sais pas si je lui donne un deuxième contrat au Pélican, alors que je pense que, parce qu'il est un peu, il a son step back sur le côté, il peut mettre des tirs intéressants parfois. Parfois, il va faire un gros carton à 30 points. J'ai l'impression que c'est pas la vraie image qu'on a de lui. Donc, je choisis Nickel Alexander Walker.
Très bon choix. Moi, j'avoue que je suis arrivé page blanche et vraiment très bon choix parce que pour avoir été obligé de subir les Pélicans au début d'année pour un podcast, alors c'était entre lui et Jackson Hayes. La seule différence étant que Jackson Hayes, personne ne demande à ce qu'il joue plus. Oh. C'est la grande différence, c'est que tout le monde, je pense, a fait le deuil de Jackson Hayes, moins de Alexander Walker. Madiane, c'est toi qui as eu l'idée de ce trophée, tu le donnerais à qui?
Alors, déjà, je vais parler du process parce qu'on en parlait en off et ça intéressait. Moi, je suis allé sur Twitter parce que c'était difficile. Oula. Et j'ai tapé Shoot Playboard NBA et j'ai scrollé et j'ai vu des fans et des fans, des fanbase. J'ai fait de l'investigation, je suis allé profondément et là, je suis tombé sur des tweets demandant à ce que Quickly devienne titulaire au poste de meneur des Knicks. Et moi, j'ai fait non. Juste non. Enfin, pourquoi pas dans le futur, hein, si ça se trouve, il va se développer. Mais là, non. Non, tu le vois jouer. Je suis désolé, c'est affreux s'il joue titulaire. Ça va pas le faire. Il montre de bonnes choses, ok, mais en fait, c'est les déchets qu'il y a dans son jeu. Face à des bancs, généralement, il n'y a pas non plus des foudres de gars en face. Je trouve que c'est pas possible, en fait. Et surtout, lui confier la balle et l'organisation du jeu, on se rend pas compte. Il est pas du tout dans ce registre. Donc, je comprends même pas la demande à ce que ce soit lui qui organise le jeu des Knicks. Si ça se fait, ça va pas le faire. Et je pense que si ça se fait pas, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Je pense qu'il a de l'apport, il a un côté énergie, etc. C'est très intéressant. Mais les déchets qu'il y a dans son jeu, ils sont énormes. Et c'est pas un playmaker. Il va pas rendre les autres meilleurs. Et c'est plutôt de ça dont tu aurais besoin. Et c'est pas ce qu'il apporte. Donc, moi, c'est un grand nom. Quand j'ai vu cette idée, et du coup, cher fan d'Enix, c'est pas une bonne idée, ça.
Ah, vous m'embêtez, parce que là j'étais vraiment. Quand j'ai réfléchi toute l'après-midi, la veille, j'ai pas trouvé de nom, et là, vous avez trouvé deux bonnes solutions, mais je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté parce que c'est presque pas la même idée. D'un côté, on a le mec qui a déjà les responsabilités, on voudrait lui en donner encore plus, et déjà le niveau de responsabilité actuel est trop, et on a le mec à qui on veut pas vraiment responsabiliser, à qui on veut en donner plus. Personnellement, vas-y Madiane.
Je tiens à citer une stat qui a été donnée en argument sur Reddit, c'est le leader de la NBA en pourcentage au lancer franc. Il en tente 1,8 par match, mais c'est le leader.
Non, en plus, c'est les mêmes types de joueurs. C'est ce genre d'extérieur très porté sur le tir extérieur qui n'arrive pas à mettre un 2 points. Donc, qui a un pourcentage à 3 points. Pas Monique Alexander Walker, mais tu sais, les Kobe White, les joueurs comme ça, ouais, qui sont à 39% au tir et 38% à 3 points. Donc, en fait, les gens disent, ah, c'est trop bien, il a 38% à 3 points. Ouais, mais il a 38% à 2 points aussi. Donc,
Oui, ils peuvent pas finir. Ouais, voilà. C'est. Ça, c'est. Ça, d'ailleurs, je. Théorie stupide, parenthèse, je trouve que les mecs finissent de moins en moins bien au panier. Alors, à se demander si c'est un truc, enfin, c'est peut-être une impression, ça demande plus de réflexion, mais je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à finir au panier et qui, à l'inverse, sont très adroits à longue distance.
C'est pas Quickly qui a fait cette action légendaire où en contre-attaque, il a un panier ouvert à 2 points, il retourne mettre un step back à 3 points.
J'avoue qu'entre ça et l'argument de. Entre ça, l'argument des lancers francs et puis la dédicace à Adrien parce qu'il dit, il faut qu'on parle des Knicks, j'ai envie de le donner mon point à Quickly. Je pense que... Ouais, un point pour Quickly.
Je sors le drapeau blanc.
mais c'était très bien. Mais franchement, Alexander Walker, c'était extrêmement bien.
Ouais, Alexander Walker, j'y avais pas pensé. C'est très bien vu. Mais c'est vrai que par exemple, Kobe White, il y a eu un moment où la fanbase des Bulls, quand il commençait à se frustrer, il réclamait du temps de jeu sur Kobe White. Et...
T'as RJ Hampton aussi qui est dans ce délire-là à Orlando.
Dès que t'as un arrière qui sait faire du step back un peu et qui met des tirs à 3 points, je pense qu'on dit waouh, là c'est l'ouverture de la boîte de Pandore, mais il faut se méfier. Très souvent.
Il y a un moment, je regardais Cole Anthony pareil parce que c'est ce genre de joueur très, très spectaculaire quand il prend des tirs, mais
c'est devenu un autre joueur.
C'est une situation où il n'est pas réclamé. Ouais. Quoi.
C'est devenu un autre joueur cette année quand même que les gars qu'on a cités.
Du coup, on parle d'Orlando, léger marasme. On va rester dans le même type de sphère, j'ai envie de dire, avec le trophée Carter Williams ou Jennings. On a le choix. Brandon Jennings, Carter Williams. Je cite, parce qu'en fait, on a fait une petite erreur, c'est que je ne sais pas qui a créé chaque...
Celui-là, c'est le mien.
Ah, eh bien, Madiane, on croit qu'il y a du potentiel, mais il ne faut pas s'y fier. Rookies only, c'est écrit. Alors, Madiane, comment t'as pensé à ce trophée-là?
J'y ai pensé parce qu'en fait, j'ai créé le trophée Jalil Okafor. Et Jalil Okafor a fait le même genre de saison rookie où il met plein de points dans une équipe pas ouf.
Ah, t'es
et
gentil,
tu dis,
hey, vraiment pas ouf son équipe. C'était le but.
Ouais,
hein.
oui, je suis gentil. Mais du coup, en fait, t'as les fans qui pensent qu'il y a du potentiel. Et je me souviens qu'il y a eu des trades sur Jalil Okafor qui avaient été refusés et c'était un peu bizarre. Mais en fait, non. Enfin, c'est juste qu'il y a une situation qui fait que, mais il ne faut pas se fier à cette saison rookie. Il est au milieu du champ de ruine. Et du coup, il peut scorer, il peut faire des trucs.
On parle rookie, c'est un peu le cœur de métier d'Alan Guillou. Alors, il faut se méfier de qui? Rappelons, tu l'as très bien fait, Madiane. Carter Williams, le premier match, etc. Les triples-doubles. Beaucoup de choses ont été dites et on s'est rendu compte qu'on avait peut-être, si j'élargis, j'espère que je vais pas dénaturer le trophée, Madiane, mais ça sous-entend aussi qu'on est devant un joueur qui peut-être a déjà, c'est difficile à dire, mais les compétences sont déjà peut-être complétées et qu'il a déjà pu vraiment, cette fameuse marge de progression qui est parfois artificielle, elle est limitée. Alors, tu choisirais qui, toi, Alan?
Je suis entre Davion Mitchell et Chris Duarte.
Ah!
Parce que Davion Mitchell, parce que déjà, les deux sont vieux. Les deux ont 23 et 24 ans. Les deux sont plus âgés que des mecs comme Tatum, que Ja Morant et tout. Ils arrivent dans la ligue les deux sont draftés loterie, donc il y a quand même une certaine forme d'attente sur ces deux joueurs-là. Et en fait, je pense que bon, pour Duarte, je pense que ça sera un vrai solide joueur de rotation, peut-être un troisième garde d'une rotation NBA, mais pas plus. Je ne vois pas être titulaire en NBA. Et Davion Mitchell, en fait, j'étais pas très fan du profil parce que quand on me parle que de la défense homme à homme d'un extérieur pour me vendre un profil, moi je suis un peu, surtout en loterie, je suis un petit peu sceptique. Le tir à 3 points, il a jamais vraiment bien tiré, sauf une année l'année de sa draft. Donc l'échantillon était, il a tout fait au bon moment et c'était pas vraiment non plus un super playmaker. Donc il est petit, il est vieux. Donc ces deux joueurs, voilà, je pense que la marge de progression n'est pas celle qu'on pense et je pense que ça sera jamais des titulaires NBA positifs. Voilà, je prends des risques, hein, mais il faut.
Ok, c'est ton cœur de métier, donc tu peux prendre ce genre de risque. Madiane, tu partirais vers qui? Moi, je vous ai dit, les gars, n'ayant pas la légitimité d'Alan sur les jeunes joueurs, je me méfiais que ce trophée-là. Je dirais juste que pour moi, on est obligé d'inclure les rookies selon les règles de Madiane. Là, c'est bien, c'est que le créateur du trophée impose ses règles. Mmh. Moi, je vous ai dit que pour moi, c'est un trophée où Tyrese Haliburton sous nitroglycérine peut rentrer. C'est-à-dire que je pense que Tyrese Haliburton, on a déjà 95% du joueur qui sera, c'est-à-dire un excellent titulaire, excellent manieur de ballon qui a une propreté incroyable, qui ajoute quelques éléments, mais je pense pas qu'il ait une progression folle qui l'attend. Mais c'est déjà un excellent joueur. Mais je pense qu'il aurait pu se mêler un peu à la discussion. Du coup, Madiane, après cette longue parenthèse, t'es parti sur qui?
Alors, justement, comme j'ai forcé en disant Rookie Only, c'est très dur ce que je vais dire, donc à prendre avec des pincettes. C'est juste un faisceau d'inquiétude que j'ai en ayant vu les débuts du joueur. Jalen Suggs me donne un goût où je regarde et j'ai peur pour lui. J'ai peur pour plusieurs raisons. C'est que déjà, on avait des petites inquiétudes sur son tir en disant voilà, il faut que ça travaille et il est vraiment pas dedans. Mais vraiment, enfin, les pourcentages sont. C'est un échantillon, hein. Il a pas joué beaucoup de matchs, il en a joué une vingtaine. Mais sur l'échantillon qu'on a, ça s'est amélioré récemment. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment très inquiétant. C'était un point sur lequel, Alan, tu me confirmeras, il me semble qu'il y avait des inquiétudes fortes. Et l'inquiétude, quand même, a l'air d'être peut-être pire que ce qu'on pensait. Alors, j'espère qu'il va redresser la barre. Mais voilà, ça c'est une première source d'inquiétude. Et l'autre source d'inquiétude, c'est il est dans une équipe où il y a un autre rookie qui performe plutôt bien. Et il y a peut-être des choix qui vont être menés sur à qui on donne la priorité. Moi, à la base, je le voyais plutôt avec la balle. J'ai vu qu'il y a eu des séquences où il avait pu jouer off-ball en FIBA et ça s'était plutôt bien passé. Et du coup, il pourrait trouver sa place. Mais du coup, la condition viendrait du tir, ce qu'il n'a pas actuellement. Et du coup, voilà, il y a un petit faisceau. Le Orlando qui est en reconstruction, est-ce qu'ils vont être patients? Est-ce que s'il tombe haut à la draft et qu'il tombe sur un joueur à qui confier la balle, est-ce qu'ils vont s'en débarrasser? Il y a tout ça qui me fait penser que voilà, il n'a pas une situation idéale et ça me fait peur pour lui, à l'avenir.
Moi, j'aurais pensé, Alan, que tu serais parti vers Sengun, le rookie des Rockets.
Ouais, mais moi, il m'a rien montré. Donc...
c'est vrai qu'il faut avoir montré un minimum pour entrer dans le trophée.
Non, mais les fans des Rockets, qui est limite à une période de l'année, te disaient que leur meilleur rookie, c'était Sengun. Fallait arrêter, quoi. Enfin... Moi, quand on compare déjà, on compare un pivot à Jokic, moi j'arrête. Il y a quoi? Il y a 0,25% de chance que ça se passe comme ça. Donc, mais Sengun, en fait, non, parce que, en fait, mais Michael Carter Williams, c'est quoi? C'est un mec qui était rookie de l'année, qui faisait des triples-doubles, qui était quoi en 18, 6-6 ou un truc comme ça, qui s'est retrouvé à se faire trader à Milwaukee, de mémoire, se fait trader à Milwaukee, ça marche pas, et deux ans après, limite, c'est un backup pivot négatif. Ouais. Sengun, je pense que ça sera, ils vont l'essayer en titulaire, je pense. Mais si Houston veut drafter très haut, si Houston prend un intérieur, je pense que Sengun sera un backup. Suggs, en fait, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'on te l'a mal vendu. T'as écouté 75% du paysage français qui avait vu son tir du milieu du terrain avec Gonzaga. Et qu'il comparait à ce qu'il est pas, et c'est pas bien pour lui, en fait. C'est pas bien pour lui. Pour moi, je pense à l'inverse qu'il aura toujours sa place en NBA parce qu'il défend et il est intelligent. Donc, alors que Carter Williams, il défendait pas, quoi. Il pouvait, le corps, on pensait qu'il pouvait. Mais sur le tir, t'as vraiment raison, il faut qu'il mette dedans. Là, il est revenu avant-hier. Et sur la situation d'Orlando, je suis assez d'accord. Franz Wagner est très bon. Vraiment très très bon. Cole Anthony, en deuxième année, s'améliore vraiment en playmaking. Donc, on lui donne la balle de facto. Mais c'est vrai que quelques fois, je l'ai vu sans Cole Anthony. Il y avait une bonne relation avec Wendell Carter. Je suis pas super négatif sur Suggs. Je l'étais comme
non,
toi.
Non, c'est encore tôt. Ouais. Il vient d'arriver hein, dans l'équipe.
Il a 20 ans, donc voilà. En fait, c'est les rookies qui ont 23, 24 ans, moi, qui sont pas déjà très 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 bons. C'est là où il y a plus un red flag.
Pour ce trophée-là, les gars, je propose qu'on ne donne pas de gagnant. On n'a pas envie de donner porter l'œil à un de ces rookies. Donc, on va enchaîner avec un autre de nos trophées. Cette fois-ci, on va parler... Alors, ce trophée a ramené beaucoup de débats parce qu'on l'a renommé au moins deux fois ou trois fois dans la journée. J'estime qu'il devrait s'appeler le trophée soit LeBron James Cavs, proposition de Madiane, soit Draymond Green Warriors. Proposition de Madiane. Je tends vers le LeBron James Cavs. C'est l'idée du trophée, le joueur le plus valuable pour la façon de jouer de l'équipe. Sans lui, ça ne peut pas marcher du tout. Pourquoi on l'a renommé ce trophée? Parce que de base, il s'appelait le trophée Rudy Gobert et pour moi, on ne peut pas l'appeler le trophée Rudy Gobert parce que c'est Rudy Gobert le gagnant, en fait, de ce trophée-là. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'éliminer tous les joueurs qui étaient héliocentrés de ce trophée-là parce que j'estime que c'est l'héliocentrisme qui te rend indispensable, pas tellement toi. C'est-à-dire qu'on peut interchanger Luca, Trey, James Harden de la grande époque. En fait, ils sont interchangeables. C'est pas leur compétence en elle-même qui rendent cette indisponibilité-là. Là où Rudy Gobert, on l'a vu, le Jazz, quatrième défense quand il est là, 30e quand il n'est pas là. Une équipe qu'on n'attaque pas du tout dans la raquette quand il est là, 29e en termes de pourcentage. 29% des tirs étaient pris dans la raquette quand il est sur le terrain, deuxième en NBA, 32 quand il n'est pas là. 15e en NBA. Et puis là, je trouve que là, c'est la meilleure stat de toutes, pardon. 63% de réussite au panier quand Rudy Gobert est sur le terrain. 74% quand il n'est pas là. On passe de la 6 à la 29e place. Mmh. On l'a bien vu, ce Jazz-là, sans Rudy Gobert, ils ont complètement déjoué. Le retour de Rudy Gobert a été un peu fracassant quand même avec certaines déclarations, mais pour moi, défensivement, et le Jazz... Même si c'est la meilleure attaque NBA d'après les statistiques, il y a quand même une ADN défensive. Et de cet ADN-là, Rudy Gobert, c'est 90% de cet ADN-là. Il arrive à créer un concert où des mauvais défenseurs ou des défenseurs moyens font partie d'une des meilleures défenses NBA. Donc pour moi, le joueur le plus indispensable pour son équipe, si j'omets les joueurs héliocentrés, c'est Rudy Gobert largement.
Moi, le match à Détroit, je suis fan de Kate Cunningham. Mais ça se passe pas comme ça si Rudy il est sur le terrain. Ils les ont désossés dans le dernier quart-temps. Espèce de small ball. C'est Nekas Duncan dans son podcast qui disait ça. Ils ont été limite obligés de dire non, faut qu'on remette Hassan Whiteside sur le terrain parce que on se fait.
Avec Rudy.
Voilà. Parce que le line-up en petit, c'est pas possible. Et c'est Détroit. Hein. Sans Jeremy Grant, sans Kelly Olynyk, donc sans spacing avec Amidou Diallo et Josh Jackson sur le terrain. Donc, complètement.
Non, et je trouve qu'en fait, c'est justement la meilleure attaque parce qu'ils arrivent à aligner un 5 qui n'a pas de cohérence sans Rudy Gobert. Tu ne peux pas jouer avec ces joueurs-là si Rudy Gobert n'est pas là pour couvrir tout ce qui se passe. Ça ne défend pas, en fait. Et du coup, en fait, leur bonne attaque est une conséquence de Rudy Gobert. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment le joueur le plus influent et de loin dans l'effectif. Et finalement... Je vais aller un peu plus loin. Les désillusions qu'il peut y avoir par moment en playoff, dédicace à Tom, je fais partie de la team Ben sur cette affaire-là. En fait, vient aussi du fait que Rudy Gobert a plus de mal dans les setups playoff, où là, on va plutôt chercher à déjouer ce système-là du Jazz directement. Et là, sans un Donovan Mitchell qui sort un lance-flamme à chaque campagne. Je pense qu'ils sortent à chaque fois vite parce qu'on va plutôt cibler les faiblesses de ce système-là parce qu'il repose littéralement sur un mec, alors que finalement, dans d'autres équipes, ça ne se passe pas comme ça. Et comme tu n'as pas le temps en saison régulière de faire un game plan par équipe tous les soirs, oui, tu peux le faire. Et j'ai déjà vu des cas spéciaux. Je me souviens de Brad Stevens qui travaillait souvent ces matchs contre le Jazz, et je me souviens que les Celtics faisaient partie des équipes qui tapaient tout le temps le Jazz à un moment à cause de ça. Ben, hormis des cas très spécifiques, en saison régulière, t'as pas le temps et tu perds parce que voilà, c'est trop bien rodé. Et vraiment, c'est parce que tout repose sur lui. C'est incroyable à ce niveau.
J'ai beaucoup vu, à cause de cette absence de Rudy Gobert, là on est tous d'accord, j'ai beaucoup vu revenir la réflexion selon laquelle, bah, en ce moment, on est en train de voir que Rudy Gobert, c'est un peu ce que tu disais, Madiane, c'est le joueur le plus important de cette équipe du Jazz. Et ça, j'ai l'impression que on est tous d'accord pour dire un truc, mais en fait, tout le monde le dit différemment, donc personne s'entend. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que comme tu l'as dit, saison régulière, Rudy Gobert, c'est le joueur le plus important du Jazz parce que leur assise défensive est importante et que, bah, offensivement, ça leur permet de mettre en avant de certains line-up. Par contre, moi, mon affirmation, c'est, ça a toujours été qu'en play-off, compte tenu du setting play-off et des compétences que te demandent les play-offs, il y a un moment où Rudy Gobert, tout joueur qu'il est, devient, je dirais pas moins important que Donovan Mitchell, mais je pense plutôt que c'est Donovan Mitchell qui fait la différence pour le Jazz. En fait, c'est pour moi là, parce que c'est un débat qui revient souvent, si on peut un petit peu...
C'est pas manichéen, pas quoi.
Ouais, c'est pas manichéen, c'est-à-dire que Rudy Gobert, c'est un joueur ultra important, et si on est tous unanimes pour lui donner ce trophée-là, c'est qu'il y a une raison. Mais par contre, j'estime que la différence sur un setting playoff est faite par Donovan Mitchell. Alors, différence, je parle pas uniquement de prendre le dernier shoot, ça c'est limiter la réflexion, c'est plutôt être capable de possession après possession, quand les choses ne vont pas, offrir des possibilités sur du 1 contre 1 ou sur des simples pick and roll. C'est le seul joueur de l'effectif qui fait ça, et les limitations offensives de Rudy Gobert dans le scoring, je pense, en sont la conséquence. C'était très rapide. Quelque chose d'autre à dire sur ce trophée-là? Parce que là, on a été ultra rapide.
On peut détailler du coup les candidats qui perdent face à Rudy Gobert à mes yeux, mais qui méritent d'être cités. Moi, c'est de nouveau Stephen Curry, la gravité offensive. Et surtout, je vois que ça rend... en fait, c'est même une double gravité, parce qu'en fait, on a failli l'appeler Draymond Green, parce qu'en fait, il faut aussi avoir un Draymond Green pour que ça marche. Mais je trouve qu'en fait, le fait que ça parte de lui dans l'animation offensive, avec un Curry qui se met d'un seul coup à être off-ball, qui attire par la gravité, ça permet aux autres d'être bien meilleurs. Vraiment, ça augmente le niveau de jeu collectif, enfin, le niveau, enfin, Andrew Wiggins est dans la discussion All-Star. Qui aurait imaginé ça? Non mais vraiment, hein, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais parce qu'en fait, dans ce collectif-là, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien pour lui. Et il est mis dans les bonnes conditions parce qu'il y a une espèce de double gravité entre les deux. Il y a la gravité du playmaking du coup sur le poste de Draymond Green, mais il y a aussi le fait qu'il faut un Stephen Curry et que ça, c'est pas interchangeable. Avoir un mec aussi chiant off-ball, c'est vraiment chiant de jouer contre ce mec-là. C'est terrible pour les défenseurs. C'est une plaie. Ça donne quelque chose d'assez unique qui rend toute l'équipe meilleure. Et je trouve que Curry mérite sa mention à ce titre-là.
Ok, mention Stephen Curry, ça s'explique assez bien. Alan, tes prétendants aussi qui ont du coup échoué face à Rudy Gobert.
Est-ce qu'il y a un héliocentrisme Jokic?
Alors, grosse question. J'allais le mettre aussi et je l'ai éliminé, mais j'avais la même réflexion. Je me suis vraiment posé la question.
Parce que si oui, bah... Voilà, on élimine. Sinon, il est très très haut pour moi. Et sinon, Chris Paul.
Oui, ouais,
Chris Paul.
Chris Paul, parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de Phoenix. C'est le plus influent. On a vu quand il n'était pas là par rapport à quand Booker a raté quelques matchs. Je trouve qu'on voit la différence. Alors, c'est un peu comme Gobert. D'ailleurs, c'est un peu comme Gobert Mitchell. Sur un même back courte. Et on veut. Il y a des trucs un petit peu antinomiques, quel doit être le All-Star, quel doit être le All-NBA ou des choses comme ça. Pour moi, même si voilà, les stats, la ligne de stats brute de Devin Booker est plus ronflante, Chris Paul influence, je trouve, plus le jeu de Phoenix.
Moi, j'en parlais au moment des reviews des finales NBA game par game, et c'est ce que je disais à partir du game 3 ou 4, Booker flambait. Et mais Phoenix perdait. Et je disais, la seule façon de Phoenix de gagner, c'est que si Chris Paul devienne le MVP des finales. Si c'est Chris Paul qui monte d'un niveau, là, tu as vraiment tout le monde qui pourra monter d'un niveau, alors que Booker peut mettre ses 40 points d'un côté et l'équipe peut perdre quand même. Alors que si Chris Paul fait un excellent match, tu n'as pas l'impression que l'équipe peut perdre. Et du coup, c'est pour ça que et c'est comme ce qui s'est passé encore l'année d'avant. C'était LeBron James, Anthony Davis dans la bulle. Anthony Davis mettait des énormes cartons. Mais Anthony Davis qui met des énormes cartons ne te fera pas forcément gagner, alors qu'un LeBron James qui maîtrise le jeu, ça te fait gagner beaucoup plus facilement.
Mmh. Mais je rebondis sur le Jokic, j'y ai beaucoup pensé. Je me suis dit, est-ce que je l'inclus ou pas ? Et pour moi, il pourrait presque rentrer parce que j'ai dit, ah, les joueurs sont interchangeables. Il n'est pas interchangeable, Jokic. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu peux mettre personne à sa place. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. Il pourrait presque rentrer. J'ai pensé après... Il y a un problème avec ce trophée-là, tu peux vite tomber dans choisir juste un joueur trop fort parce qu'en fait, il est trop fort. J'ai un moment, j'ai pensé deux secondes à Giannis, mais je me dis, en fait, Giannis, c'est parce qu'il est juste trop fort. Mm. Et en soi, tu pouvais faire certaines choses, mais j'avoue que Jokic, j'aime plutôt assez. On va enchaîner et on va continuer sur le trophée Miles Turner. Je cite, « L'idée et le profil du joueur sont plus discutés que le joueur lui-même. » Ça, c'est Tom, si je ne m'abuse. Ce concept du joueur qui fait rêver alors que la réalité du joueur est moins bonne. Tu as parlé des Lakers, Madiane, je vais commencer, je vais blasphémer un peu.
Oui, je l'ai aussi.
Anthony Davis, les gens.
Oui.
C'est Anthony, je suis désolé, hein, c'est Anthony Davis maintenant. Anthony Davis, le profil de l'intérieur ultime, on le répète, mais on lui a donné le bénéfice du doute la saison dernière parce qu'on s'est dit intersaison courte, le titre, la bulle, il avait été incroyable. Mmh. Mais en réalité, sur les trois dernières années, ce profil de l'intérieur ultime, on l'a vu cinq semaines dans la bulle à Orlando. On ne l'a pas vraiment vu, il se blesse beaucoup. C'est un joueur qui a pris du poids cette saison pour jouer plus au poste de pivot. La réussite au tir, elle a existé que dans la bulle. Il est beaucoup moins mobile à cause de cette prise de poids. Ça reste un joueur incroyable, hein. Ça reste un joueur du DH20, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que Anthony Davis, dans l'idée, si on parle une fois de l'idée de cet intérieur 3.0, pour moi, ça devient de plus en plus une chimère. Je parlais du DH20, les gars. En octobre-novembre 2020, donc après la saison écourtée, bulle, etc., on a fait notre DH20, ça date donc d'il y a 15 mois, on avait Giannis et AD au même niveau. Enfin, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite, et je trouve que Anthony Davis devient de plus en plus ce joueur théorique. Ça me fait mal de le mettre parce que pour moi, souvent, un joueur théorique, c'est plutôt un joueur qui a pas fait ses preuves, mais j'ai pas envie de trop taper sur les jeunes joueurs parce que j'estime que les jeunes joueurs peuvent un peu tout rassembler. Là où Anthony Davis, c'est un vétéran, c'est un mec qui est là depuis plusieurs années, qui a eu plusieurs contrats, qui est dans le top 20 NBA, et j'ai l'impression qu'on fantasme un peu sur ses capacités parfois. Je vais enchaîner, j'ai vu Madiane beaucoup acquiescer, donc j'estime que t'es d'accord avec moi, donc je vais donner la parole à celui qui est pas d'accord avec moi. T'en penses quoi, Alan?
Moi, en fait, je l'ai plus vu comme le joueur. Moi, ce trophée-là, je l'ai vu comme, ouais, lui, il est dans une mauvaise équipe, mais ça ferait un super joueur de play-off dans une équipe qui gagne.
Ah, pas mal.
Ah, oui.
Et j'ai choisi... L'interprétation non, est autorisée.
Et j'ai choisi Jason Tate, des Rockets. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on le voit comme un défenseur polyvalent, peut jouer un peu loin du ballon, c'est beaucoup moins sexy qu'Anthony Davis. Hein. Je vous cache pas que là on est sûr. Mais en fait, je le trouve petit et il tire pas à 3 points. Donc j'ai du mal à le voir vraiment parce qu'à chaque fois on va me dire ouais, regarde PJ Tucker, ouais mais il y en a qu'un seul. Enfin, on le voit à Miami cette année, on l'a vu à Milwaukee, on l'a vu à Houston. Si le modèle de vente d'un joueur de ce type-là, c'est PJ Tucker, moi j'ai du mal, c'est comme quand on me vend non mais ce meneur, il est trop petit. C'est un bon gestionnaire. Regarde Chris Paul. Ouais, mais non. Dans cet intérieur, il est
Tyus
pas.
Tyus Jones, voilà. Etc.
Dans cet intérieur, il est pas physique, mais il a un peu de talent offensif face à Jokic. Non. Donc, en fait, j'ai un peu de mal avec Jason Tate. Je demande à voir. Est-ce qu'il va bouger du Houston? Est-ce qu'il va arriver en playoff dans une équipe? J'avais Christian Wood aussi.
Que... Ah, ouais, ça, c'est
un historique du podcast. Ouais,
Christian Wood, voilà. Christian Wood qui fait des stats dans des équipes où il est souvent beaucoup servi, mais pas souvent très bien servi, mais où ça gagne pas non plus. Ce Christian Wood, aux Hornets, aujourd'hui, te permet de passer le cap pour Charlotte, par exemple, ou autre. Et voilà, c'était les deux que j'avais.
Christian Wood, je suis en train de me dire qu'il aurait pu aussi être trophée Anthony Moreau. Il y a quelques années, il aurait pu l'avoir aussi, il doit plus jouer et tout, alors que... Bref, après, c'est vrai que Christian Wood, c'est toujours terrible pour lui, parce qu'il est toujours dans des marasmes pas possibles. Madiane, je reviens vers toi. Alors, du coup, est-ce que tu es d'accord pour... Ça fait mal. Moi, en fait, ça m'embête vraiment de mettre Anthony Davis, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à ce stade-là.
Ouais, non, Anthony Davis, je partage pleinement parce que je l'ai mis. Je l'ai mis et en fait, c'est surtout... en fait, c'est beaucoup de théories aussi sur l'affaire du small ball. Il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de discussions très théoriques autour d'Anthony Davis. Mais Anthony Davis, très fort. On l'a vu que sur des flashs, hein, la bulle, des grands moments, il fait des grosses saisons, mais... est-ce qu'il peut vraiment porter une équipe? À un moment, on disait oui, LeBron James va lui passer les clés des Lakers. Moi, j'ai de plus en plus de doutes que Anthony Davis sera un jour une option 1 d'une équipe qui va loin. Je pense que ce sera toujours un joueur B ou prime, mais ça ne pourra pas être le mec qui te fait gagner fort, un peu à l'image de ce que je racontais autour de... Il y a des joueurs comme ça qui sont des options, une beaucoup plus naturelle que ce type de joueur. Et ouais, je trouve que c'est un joueur qui est aussi très débattu, parce qu'on dit oui, mais les blessures, oui, mais ça, et en fait, à chaque fois, il y a un moment où la valeur terrain et ce qu'on voit n'est que le juge de paix, il n'y a que sur ça sur lequel on ne peut pas se tromper, et dès lors qu'on regarde le terrain et que le terrain, moi, je commence à avoir un avis un peu plus négatif. C'est pas un mauvais joueur. Enfin, il faut pas se tromper. Hein, on n'est pas en train de dire Anthony Davis c'est bidon. C'est pour moi, enfin, DH20, il va pas en sortir. Mais là, on le mettait au même niveau qu'un Giannis. Là, j'en suis très revenu et ça me calme énormément parce que finalement, je me suis emballé sur encore une fois une théorie du joueur qui n'est pas ce qu'il nous offre sur le terrain. Et même dans la bulle où il a été au sommet d'une domination à un moment, bah, c'était quand même pas lui le plus valuable de l'effectif.
Sachant en plus, hein, pour une fois, parce que on sait, il faut, quand c'est ça, il faut un peu faut nuancer. On a nuancé, hein, pensons à sa série contre les Blazers où ils mettent un 4-0 un 4-0 aux Blazers. Il est incroyable aussi. Avec Jrue Holiday, ils font une série extraordinaire. Le truc, c'est aussi, tu vois, si on parle de débat théorique, avec Eddie, on voit peut-être la limite du joueur qui, on le répète souvent, qui a pas la balle dans les mains. Bah, quand Anthony Davis, sur le shoot à mi-distance où il avait été incandescent dans la bulle, quand Anthony Davis, défensivement, il est peut-être un cran en dessous, et quand Anthony Davis, je vais reciter Elias, il a ses flashs de meilleur joueur du monde, mais tu te demandes pourquoi ce sont que des flashs, bah, il y a un moment où quand le niveau général il descend un peu, bah, tu tombes sur un joueur qui s'approche de la théorie. C'est peut-être très dur. Moi, je trouve qu'on s'en approche de plus en plus de ça avec Anthony Davis.
Complètement.
Rien à rajouter.
Il a jamais été dans les sommets qu'on lui a toujours promis. On a toujours promis, moi je me souviens... de l'enflammade après une game de saison régulière face à Détroit où il avait été incandescent. Je ne sais plus combien il leur met 60-20, une connerie du genre. Enfin, il leur met une domination, c'est rare. C'était pas en plus un mauvais Détroit à ce moment-là. Et je me souviens, il y avait des titres, il nous montre les flashs de ce qui sera quand il sera à son sommet. Non, c'est un flash, c'est pas ce qui sera. Il y a aussi le fait que le joueur effectivement nous a montré des hauts très hauts et du coup donne envie de s'emballer, mais peut-être que faut se dire que ça n'arrivera jamais, mais que ce qu'on a est très très bon et c'est pas une critique, c'est très très bon hein, ce qu'il fait, mais ça ne sera jamais le meilleur joueur du monde, je pense.
Je retombais là-dessus, Madiane, 59-20 contre Détroit en février, 21 février. C'est ce qui a inspiré ma fameuse boutade dans le DH20 que je répète à chaque fois, je m'en fiche de ce que tu fais contre Détroit au mois de février. Bah ça, c'est ce qui a inspiré ça. Enfin, c'est ce match-là. Mais c'est vrai qu'en soi, on dit pas c'est un joueur du top 20, je vais renvoyer à ce que tu as dit, Madiane, cette idée de pivot intérieur ultime qui tue le small ball mais qui peut à la fois prendre des pivots qui est un espèce de pont entre deux générations. Ça se matérialise, pas assez.
Tout à fait.
Est-ce qu'on est d'accord pour lui donner, alors ? Est-ce qu'on donne le trophée Miles Turner à Anthony Davis ?
Oui. J'avais peut-être juste une dernière mention. Juste au global, la mention 3&D à l'aile, où soit il n'y a pas le 3 points, soit il n'y a pas la défense. Ça, il y a un nombre de joueurs, théorique. Donc, tu sais, tu dis, ça peut être un Shulendi. Ouais, mais il shoot à 23% à 3 points, c'est pas un Shulendi du coup. Je fais un coucou à certains fans de certaines franchises. Et pareil, de l'autre côté, un mec qui shoot bien à 3 points, ouais, ça peut être un Shulendi. Mais il défend pas. C'est pas un Shulendi du coup. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y en a un paquet. Non, mais vraiment, parce que le Shulendi est peut-être une des valeurs les plus rares et les plus recherchées. Un mec sans la balle qui te met des shoots et qui défend, c'est super rare. Et du coup, il y a plein de joueurs, on les voit, ils ont soit l'un, soit l'autre. On dit, ça peut être un Shulendi. Non, en fait, s'il a pas les deux, c'est pas un Shulendi. Et ça le deviendra pas. Tu peux pas développer aussi fort cette double qualité qui est extrêmement rare. Et franchement, un joueur qui a les deux, il aura de l'argent à NBA jusqu'à la fin de son jeu, de sa carrière. Hein. Ça, il n'y a pas de souci.
Faudra qu'on fasse une liste, mais c'est vrai que tu vois, tu parles, quand tu réfléchis dans ta tête, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la plupart ont plus de responsabilités que le simple 3 points et la simple défense. Mmh. Très bien, et bien, on va donc donner ce trophée Miles Turner la peine dans l'âme, parce que c'est un joueur qu'on apprécie quand même à Anthony Davis.
Ah, il est super à voir jouer. Hein.
On va terminer cette émission avec le trophée Timofey Mozgov. Désolé, Alan. Les gens auront la référence. Il faut avoir écouté, oula, le podcast depuis le début, presque.
Mais je crois que tu as des nouvelles du joueur, Alan, à nous
fournir. Oui, il a signé en D2 russe. Ouais, si les gens se demandaient, il joue en deuxième division russe.
Magnifique.
Le chemin est long hein, depuis les finales de NBA où il avait le troisième rôle après avec Mathieu Dellavedova.
Incroyable.
Incroyable. Le trophée de Timofey Mozgov, c'est celui du contrat signé cet été, l'été dernier, et qui a déjà l'air mauvais. Alors moi, j'en ai deux.
Moi aussi.
J'en ai un qui me rend triste. C'est Michael Porter Jr. C'est une extension techniquement et le problème au dos, les antécédents, Madiane est dépité pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vois que ça me rend très triste de le mettre là. Ça me rend très triste. Et puis alors, on a toujours un truc. Allez réécouter. On invite nos auditeurs à aller écouter un petit extrait. Ça date de août 2021. On avait parlé d'un contrat, personnellement, que je n'avais pas compris. Je ne comprends toujours pas. Hein. Zach Collins, l'ami Zach Collins, qui est un joueur des Spurs. C'est normal que vous ne l'ayez pas remarqué, parce qu'il n'a toujours pas joué un match. Qui a signé un contrat de 3 ans, 22 millions de dollars, qui n'a pas joué. Les dernières fois qu'on avait eu des nouvelles, c'était il y a 2 mois de la part de Popovich qui nous disait « Ah, il va revenir après Noël ». Noël passé depuis 3 semaines, aucune nouvelle. Le joueur a joué 8 matchs depuis le 1er janvier 2020 et il a 7 millions cette année. 10 millions garantis sur un contrat de 22. Incompréhensible cette signature à l'époque, toujours incompréhensible. Moi, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que faisait le staff médical des Spurs à ce moment-là, pour signer un mec qui s'est fait 3 fois opérer, dont 2 fois de la cheville en quelques mois, et surtout, quel était le projet ? Quand on l'annonçait, je vous invite à aller écouter l'extrait, je mettrai en lien, à l'époque, les beat writers, les spécialistes des Blazers pensaient que le joueur allait prendre un minimum ou mettre sa carrière entre parenthèses. Il a signé pour 20 millions sur 3 ans, 10 millions garantis, il joue pas.
Non mais je pense qu'il l'aimait avant la draft, c'est tout.
Ouais, sans ça Antonio. C'est une bonne raison.
Ouais.
Ils se sont dit voilà, ils ont donné de l'argent à des joueurs cette année, San Antonio, ils ont fait des contrats comme ça.
Ah, il y en a un autre aussi qui était dans ma shortlist à un moment, c'est comme McDermott.
McDermott, au moins, il joue, il te met des 3 points, franchement, en vrai.
Ouais, mais autant, au contraire, il va devenir toxique à terme.
À côté de tes jeunes, il faut des mecs comme ça, en vrai. Collins, c'est juste, il tente le truc parce qu'il l'aimait pré-draft, je vois que ça. Mais c'est cher quand même pour l'aimer pré-draft.
c'est cher, hein.
7 millions. Alors, encore une fois, enfin, on parlait dans l'épisode de j'ai été le réécouter de d'août dernier. Les Spurs avaient une enveloppe de 40 et quelques millions. Ils en ont dépensé 7 sur Zach Collins. 7. Il ne joue pas. 8 matchs depuis le 1er janvier 2020. 8 matchs en 2 ans.
Incroyable.
Alors là, franchement, je vous avoue que j'ai commencé à faire la liste, je me suis dit, cet été, il y avait...
Tu penses qu'on ne battra pas Zach Collins avec ton proposition ?
Honnêtement, non. Parce que j'ai regardé, j'ai regardé les propos. Les gars, ils jouent pas. Et on lui a donné de l'argent. On a dit... Là où je me suis dit, je vais vous laisser défendre votre point de vue. Là où je me suis dit, il est imbattable, c'est qu'on l'avait déjà cité en milieu du mois d'août, mois d'août, on le cite. Mi-janvier, il a pas joué un match. Mais franchement, comment tu veux battre ça? C'est imbattable. Je vous laisse enchaîner, les gars.
Moi, j'ai.
Je te laisse.
Moi, j'ai Daniel Theis.
C'est mauvais aussi.
4 ans, 35 millions. Il a 47% au tir. C'est un intérieur. 47% au tir. Il a joué 26 matchs. Il y a le projet Sengun, il y a Christian Wood. Je pense que Houston va avoir un pick top 3. Enfin, ils vont essayer top 5. Il y a que des grands dans le haut de la prochaine draft. Qu'est-ce que va devenir Daniel Theis avec son 4 ans 35 millions? C'est cher, 4 ans 35 millions.
C'est long.
C'est long. Et l'autre, c'était, j'avais Evan Fournier, parce que je suis désolé, je dois le mentionner. 4 ans 73 millions pour être un spot-up shooter. Mais au moins, il joue. Et il met ses tirs, il a 39% à 3 points, donc pour ça, je peux. 39% à 3 points sur 6 tentatives, en réalité, t'es pas un mauvais contrat. Enfin.
Ouais, mais c'est la variance qui est très chiante avec Evan Fournier.
Je dirais Theis, moi.
Moi, j'ai un joueur qui a pas joué parce que je suis très inquiet. C'est Markel Fultz qui a son nouveau contrat et. Il a pas joué.
T'aimes bien les joueurs du backcourt d'Orlando, toi.
Passion.
Non, mais au-delà de ça, Fultz, au même titre que Porter Jr., c'est mes chouchous. Donc je souffre beaucoup là sur ce
t'aimes
sujet.
T'aimes bien les chouchous clivants, hein, parce que de base.
Mais Fultz, j'ai presque la larme à l'œil en parlant parce que ça me fait vraiment mal de se dire que ce mec-là, il aurait dû tout déchirer. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a des soucis de mécanique de tir. C'est très compliqué pour lui. C'était là où il brillait, il brille pas. Et le truc, c'est que ce qu'il sauvait, parce que je le regardais attentivement, c'était mon chouchou. Ce qu'il sauvait, c'était son explosivité. C'est que mine de rien, il avait des changements de rythme qui vraiment le rendaient utile dans le jeu d'Orlando. Et il avait vraiment un apport. Il réussissait à avoir un apport terrain parce que ses changements de rythme étaient quand même dingues. Parce que même s'il n'avait pas de tir, il avait au moins ça et il pouvait dribbler. Et là, retour de blessure. S'il perd ça, ce contrat, il peut vite puer. J'espère pas, mais j'observerai parce que j'adore ce joueur, donc je suis vraiment fanboy, mais aïe, ça sent pas bon parce que mine de rien, c'est toujours le problème de ce type de blessure au genou. C'est pas qu'il va pas revenir, c'est surtout que je pose des questions sur l'explosivité et est-ce que s'il perd ça en plus du fait qu'il a perdu son tir, là ça fera beaucoup, ça fera vraiment beaucoup. Et là, je suis pas sûr qu'ils réussissent à trouver une place. Surtout, Orlando, y a mine de rien du monde maintenant à développer. Est-ce que tu vas lui donner des minutes alors que c'est finalement un espoir déchu? Parce que qu'est-ce qu'il va devenir en fait dans la NBA? Je le vois pas rester longtemps dans la ligue, malheureusement, à ce stade-là. Et le contrat me paraît pas bon. Hein.
J'ai qu'une seule réponse pour toi, Madiane. 6. Il a joué 6 fois plus de matchs que John Collins depuis 2020, depuis le 1er janvier 2020. C'est pas possible, non mais sérieusement, non mais les gars, arrêtez franchement.
Il veut rien entendre.
Non mais en vrai, alors Markel Fultz, je comprends parce que j'ai eu ce pro. Tu vois, quand on te parle d'un joueur et tu te dis « mince, il existe encore ». Et j'ai eu ce léger problème avec Markel Fultz au moment où Madiane m'a dit « je dis mince, Markel Fultz, il existe encore ».
J'y avais pas pensé, honnêtement.
Tu vois, quand tu penses pas au mec, c'est pas un bon signe.
Et le contrat, vous êtes au courant de combien c'est?
Ça, j'ai oublié.
C'est à 2 chiffres par an, je pense.
16,5 millions.
Ah.
Par an, pendant 3 ans.
En vrai, on parle franchement.
C'est 50 millions sur 3 ans d'un mec qui a pas de tir, qui revient d'une blessure et tu sais pas où en est son état de santé du coup pour savoir s'il pourra ne serait-ce que mener un peu de jeu.
Ouais, mais au minimum, il prendra 20 minutes par match en tant que backup au Magic. si le projet c'est Cole Anthony et Jalen Suggs auront la rotation à 3. Zach Collins, on sait même pas comment on va son pied en réalité.
On sait même pas si c'est un joueur NBA, franchement.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Honnêtement, Madiane, je dois applaudir parce que très bonne, tu t'es bien battu, mais pour moi, Zach Collins est imbattable.
Oui, non, mais je le donne, Zach Collins. Parce que, mine de rien, on peut se dire que, voilà, il y a moyen qu'il revienne, alors que Zach Collins, si ça se trouve, on le reverra jamais sur le terrain. Enfin, pour moi, c'est quasiment sûr que Fultz va revoir le terrain, et même cette saison. Alors que Zach Collins, on sait pas.
Ouais, genre, Zach Collins, c'est Bill Walton sans les bons passages, quoi. Genre, à l'intérieur de Portland, qui peut pas jouer parce qu'il a des problèmes aux pieds. C'est horrible.
J'aimerais bien. Parfois, il y a des, comment dire, il y a des bonnes décisions qui amènent un mauvais résultat. Et c'est des éléments extérieurs qui amènent le mauvais résultat. Ouais. De base, ça puait.
Ouais, t'as pas compris le process dès le début.
Tu comprends pas le process. Là où, tu vois, on peut faire un mea culpa pour terminer cette émission. Quand j'ai réécouté cet épisode-là, on a beaucoup critiqué un autre contrat. C'est celui de Gordon Hayward, qui avait été payé 4 ans, 128 millions. Ouais. Eh bien alors, on l'a beaucoup critiqué. Est-ce qu'il joue au niveau de son contrat? Peut-être pas, mais c'est en fait, on comprend la cohérence du truc. Et oui, c'est peut-être un peu trop payé, mais au vu de ce que proposent les Hornets, ça a plus de cohérence et là, on comprend mieux que Zach Collins, tout simplement.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, comme quoi, on est capable aussi de faire notre mea culpa et de se dire qu'on a fait une petite erreur de ce côté-là. Là, je propose même pas de vote, les gars. J'impose Zach Collins parce que c'est vraiment un scandale. Donc, on va terminer là-dessus. Petit rappel, du coup, de nos trophées, parce que bon, allez, on sait ça en rigolant, mais on va essayer de les rappeler. Timofey Mozgov, le contrat signé cet été, il a déjà l'air mauvais. Zach Collins, le trophée Miles Turner. L'idée et le profil du joueur sont plus discutés que le joueur lui-même, Anthony Davis. Le trophée, alors, LeBron James Cavs slash Draymond Green Warriors, le joueur le plus valuable pour la façon de jouer de l'équipe. Sans lui, ça ne pourrait pas marcher du tout. Rudy Gobert. Pas de vainqueur pour le trophée Carter Williams ou Brandon Jennings. On a décidé d'être gentil. Le trophée Anthony Morrow. Celui-là, il est difficile. Celui-là, je vous avoue que je suis même, j'ai vraiment du mal, mais j'ai envie de le donner à, c'est mon vote qui fait la décision à Quickley quand même, parce que Quickley, c'est quand même incroyable. Et le Isaiah Thomas stand-by, mais on partirait plus sur un Blake Griffin face à un Russell Westbrook. Très bien. Bien, du coup, n'hésitez pas, on va faire comme on l'a fait durant la dernière semaine, on va partager des petits extraits de ce podcast-là sur les réseaux, sur Twitter, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous aviez d'autres idées. On essaiera peut-être de faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois un pendant positif à celui-ci, parce qu'on était beaucoup dans la négativité aujourd'hui. On vous invite d'ailleurs, du coup, à nous suivre sur Twitter pour participer au concours. On vous fait gagner un leak Pass. Suivez-nous sur Apple Podcast 5 étoiles comme sur Spotify, vous êtes nombreux à le faire, donc merci beaucoup. Et puis l'abonnement sur YouTube, il faut qu'on obtienne les 1K d'ici au final NBA, c'est possible. D'ici au final NBA, on peut le faire. Et bien du coup, ça allait, c'est le nouvel objectif. 1000 abonnés sur YouTube d'ici au final NBA. On vous remercie pour votre fidélité, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Tchuss. Salut.